Sur la question de l'ensemblier, là, est-ce que la région peut être l'ensemblier finalement de toutes ces initiatives en matière d'innovation?
Moi, je dirais que vraiment, je suis très intéressé par ce qui vient d'être dit sur les espaces ruraux, là, parce que je pense qu'un des gros problèmes qu'on a chez nous, c'est qu'on confond l'administration des territoires avec les projets du territoire. Et je dis bien évidemment que la région est un espace pertinent pour organiser le territoire, pour même en avoir une vision, etc., etc., à condition de ne pas en avoir une vision intégriste. Parce que nous aussi, par exemple, à certains moments, on nous a interdit de coopérer avec d'autres parce que ce n'était pas dans le cadre régional. Donc il faut que cette vision régionale soit quand même ouverte et pas intégriste. Ça, c'est la première chose. Puis deuxième chose, sur l'innovation, j'en sais rien, moi, si c'est l'espace pertinent, on ne pourra jamais le dire. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Nous, on travaille sur des pôles de compétitivité qui sont sur plusieurs régions. Et alors, où est le problème? En fait, il n'y a pas de problème. Si on réunit les acteurs des différentes régions concernées par le problème, eh bien, on va avancer. Donc voilà, je pense que c'est quand même très important. Enfin, je veux dire, s'il y a une chose qu'on doit noter aujourd'hui en conclusion de notre table ronde, ne confondons pas l'administration des territoires avec les projets, surtout pas en matière d'innovation. Nous, on commence à aborder des coopérations avec la Russie maintenant. Excusez-moi, on est quand même assez loin de notre territoire. Eh bien oui, mais si c'est ça qui fait fonctionner le système, travaillons avec la Russie. Voilà, donc je pense que c'est surtout faire vraiment la différence entre ces débats sur les collectivités et les compétences et le développement des projets, surtout les projets d'innovation.
Voilà.
Une formule. C'est pas ma spécialité, la question que tu as posée, mais je vais quand même donner quelques éléments, peut-être que Luc aussi pourra compléter. Aujourd'hui, la position de Rousset, qui est le patron de l'ARF, c'est de défendre des régions dont le projet est de développer, on va dire, ce volet enseignement supérieur, recherche, innovation, et un certain nombre de grandes infrastructures d'aménagement du territoire. Rousset est très, je vais le dire assez crûment, mais pas tout à fait sur la ligne que j'ai posée juste avant, c'est-à-dire qu'il considère que la dimension cohésion territoriale infra-régionale est pas forcément la préoccupation, doit pas forcément être la préoccupation première des régions. Donc, il est beaucoup plus sur c'est la région qui est la bonne maille pour la mise en réseau des acteurs du développement de l'innovation. C'est quand même la force. Il développe cet argument-là en le mettant en parallèle avec la question de la gestion des fonds européens. C'est-à-dire que pour lui, il faut un acteur qui conduise ou mette les acteurs du développement et de l'innovation en réseau, en capacité de travailler ensemble, et qui soit en capacité de soutenir les projets à la fois sur les fonds propres de la région, sur son budget propre, et sur les fonds européens qu'ils gèrent en même temps. C'est pour ça que les régions revendiquent d'être autorités de gestion, non seulement des fonds structurels, FEDER, FSE, mais aussi du FEADER et du FEP. Alors, je ne m'étendrai pas sur ce point, mais c'est quand même assez important. C'est clairement une posture de concurrence vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas tant vis-à-vis des départements que la question se pose, c'est plutôt vis-à-vis de l'État. La vraie question, c'est est-ce que c'est les régions ou est-ce que c'est l'État qui joue ce rôle? Et là, c'est qu'on a un vrai débat sur la décentralisation. Par contre, la question des départements revient à travers ce qui est prévu dans la loi, c'est-à-dire le futur mode d'élection des conseillers territoriaux. Donc, simplement, je vous rappelle que c'est un mode d'élection qui est prévu en 2014 qui fera que le conseil régional sera composé à 80% d'élus élus sur une base territoriale, hein, des cantons élargis. Et pourquoi les régions sont, et les départements d'ailleurs, mais les régions sont vent debout sur ce truc, c'est que pour les régions, c'est la meilleure façon de casser, je dirais, une équipe régionale en capacité de porter des politiques de niveau régional. Et non pas. Le risque, c'est de faire une région qui redistribue simplement du budget entre ces micro-territoires. Enfin, donc, moi, je ne peux que dire ça, bien que ce ne soit pas vraiment mon sujet, je suis plus dans l'aménagement du territoire que dans la recherche, l'innovation et le développement, mais c'est clair que c'est la position forte du président de l'ARF aujourd'hui, et qui est défendue par la plupart des présidents des régions, c'est il faut que la maille régionale ait les moyens de travailler pour ça, et donc les budgets pour ça, et la main libre, et soit pas tout le temps un doublon avec l'État. Donc le vrai débat, il est sur la décentralisation, quoi.
Alors, justement, là, je vais vous renvoyer sur le rapport sur le grand emprunt, parce que s'agissant de la création des 5 à 10 instituts de recherche technologique dans le domaine des énergies décarbonées, qui est envisagé dans ce document, il est question de faire une sélection par un jury international. Donc, on voit pas bien où sont les régions dans ce schéma. Philippe, tu voulais réagir ?
Non, oui, non, mais. Oui, parce que. Mais là, parce qu'on parle de. On parle du plan de relance, enfin du plan de relance à 35 milliards. Là.
Oui, l'emprunt.
Le grand emprunt, oui. Bah, donc là, on parle d'une initiative d'échelle nationale, voilà. Et enfin, moi, j'ai beaucoup écouté ce que disait Alain. Je pense qu'effectivement, les rôles respectifs. Pour répondre à la question, à mon avis, la région, elle a déjà l'intérêt, l'avantage d'être plus proche du terrain que l'État. Et la problématique de décentralisation, c'est quel est le rôle respectif de la région et des services de l'État. Derrière cette question se cache la suivante, c'est quelles sont les marges de manœuvre dont disposent, je ne parle même pas des moyens, les fonctionnaires de l'État, pour d'une part pouvoir, le cas échéant, faire du développement alors qu'ils sont essentiellement occupés à faire l'application de la réglementation. Et a fortiori, pour pouvoir faire inventer des formules et des solutions spécifiques à des territoires. Bon, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à avoir une autorité suffisamment proche d'un territoire pour définir une stratégie pour ce territoire, et ensuite pour avoir une capacité à hiérarchiser les différents projets qui, in fine, parce que c'est quand même ça un rôle important de ces collectivités-là, pourront bénéficier d'un coup de pouce pour les aider à démarrer, quoi.
D'accord. Enfin, mon interrogation, c'est pourquoi aller chercher un jury international alors qu'on a, des partenaires régionaux, quoi, qui...
Non, mais parce qu'on n'est pas à la même échelle. On est sur un truc colossal. Voilà, c'est tout. Donc à chaque échelle, à chaque taille de projet, son niveau de collectivité.
La question n'est pas... Pour moi, la question, c'est quelle région ? Donc la question n'est pas territoriale, elle n'est pas liée à un espace géographique. Mais elle est liée à ses capacités. Alors, on peut parler des capacités financières, parce que c'est toujours le premier sujet qui revient, mais dans quel niveau d'autonomie ? Et puis, on ne parle jamais en France des capacités réglementaires. Donc, même sans parler de la capacité à faire la loi, mais à produire en tout cas de la réglementation. Et donc, c'est ce que disait exactement Alain, mais sur un sujet beaucoup plus vaste, c'est quelle répartition entre l'État et les régions. Donc, la question n'est pas de savoir si... de connaître la taille de la région, sinon on doit être avec les Bretons, avec les... Bon, la question c'est de savoir avec quelle capacité globale, financière, dans le cadre d'une autonomie, et capacité à agir sur les règlements.
Voilà. Je peux peut-être rebondir là sur les suites, enfin, ou la territorialisation du Grenelle. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement dans ta question. Je ne sais pas si la loi Grenelle prévoit une territorialisation et sous quelle forme. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu sur l'estuaire de la Seine un Grenelle de l'estuaire, qui a été une initiative des élus, et en l'occurrence d'un élu qui est Antoine Ruffnac. Alors ça a une logique, ça procède de plusieurs logiques. L'une, c'est qu'il y a effectivement sur l'estuaire de la Seine des complémentarités entre rive droite, rive gauche, et qui convient de faire jouer. Ça procède probablement d'une capacité à travailler ensemble dont tu parlais tout à l'heure, parce qu'effectivement, je constate au Havre, et tu le confirmes à Saint-Nazaire, que dans ces territoires de culture industrielle ou portuaire, il y a quelque chose. Il y a un dynamisme, il y a une volonté de faire ensemble. Ça procède d'une motivation politique, parce qu'il se trouve que l'estuaire de la Seine est à droite, alors qu'à peu près tout le reste est à gauche. Alors derrière ça, bon, enfin... Ça procède aussi d'une volonté d'examiner si une intercommunalité pourrait s'élargir sur cet espace. Voilà. Et puis alors donc ça, je vais passer sur la manière dont ça s'est déroulé. Ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de participants. Il en résulte quand même des questions sur la légitimité des uns et des autres. Les associations voulant finalement, si elles entrent dans le système, participer aussi aux décisions budgétaires. Les élus disant nous sommes élus pour assurer un certain nombre de responsabilités, on n'est pas tout à fait dans le même statut que les associations. Je passe là-dessus, mais simplement, enfin, voilà un exemple de territorialisation qui débouche aujourd'hui sur plusieurs groupes de projets. chacun des projets étant piloté par un des présidents des différents pays qui composent l'estuaire. Et puis parmi ces projets, il y en a un, c'est un projet dit d'écologie industrielle. C'est-à-dire que effectivement, il y a des flux de matière, des flux de déchets, des flux d'énergie, des flux de toutes sortes qui circulent dans ce territoire. Et la question, c'est comment on pourrait optimiser, avec toujours l'image, un peu les déchets de l'un sont la matière première de l'autre, quoi. Alors ça prouve que cette question, ça prouve que sur un territoire donné, celui-là est particulièrement dense, hein, en termes industriels, hein, il se fait une prise de conscience du fait qu'on pourrait optimiser les choses si on les organisait différemment. C'est-à-dire que tant que chaque entreprise est soumise à sa propre logique économique et à sa propre réglementation particulière, les réponses vont être celles-ci. Et puis ici, par contre, on regarde les choses d'une façon un peu plus collective, on va probablement, c'est en tout cas l'idée sous-jacente, arriver à dégager des solutions plus pertinentes. Mais assez rapidement, va se poser la question du rôle de l'État à nouveau. Parce que, y compris pour la chaire CO2 dont je parlais tout à l'heure, si je ne sais pas si j'étais tout à fait clair, mais si Le Havre est associé à ça, c'est parce qu'il y a des industries au Havre, indépendamment des centrales au charbon, qui produisent énormément de CO2, on en produit 10 millions de tonnes par an, hein, quand même, hein, rien que sur la zone industrialo-portuaire. Hein. Alors quand vous entendez que le canal Seine-Nord-Europe va permettre d'en économiser 250 000 pour un prix de 4 milliards, vous rigolez, quoi. Donc on a 10 millions de tonnes par an qui sont produites, et donc c'est un champ d'expérimentation tout à fait privilégié. La question qui va se poser, c'est est-ce que les expérimentations vont être possibles du fait des réglementations? Et moi, dans mon expérience d'aménageur du port sur plusieurs années, j'ai connu une boîte qui est d'origine suisse, qui traite des déchets nocifs, en l'occurrence des piles, et qui le fait avec des procédés hyper performants qu'on trouve dans d'autres pays, mais qui se sont fait enquiquiner par notre administration nationale parce que l'un de leurs sous-produits n'est pas exactement alors même qu'ils récupèrent tous les métaux lourds, ce que personne d'autre en France ne sait faire, l'un de leurs sous-produits n'est pas exactement conforme à la réglementation. J'ai connu un cas dans lequel, pour traiter le problème du SO2, on avait une solution à travers une usine existante qui a fait faillite, mais la réglementation voulait qu'ayant fait faillite, elle avait 2 ans pour tout nettoyer, et donc impossible même de monter un système partenarial dans lequel on aurait pu réutiliser ces installations-là pour traiter le problème du CO2. Et j'ai connu aussi un cas dans lequel le stockage de déchets à travers les centres d'enfouissement technique, confrontés aux problématiques de rareté de l'espace, a amené à envisager des solutions, et une solution s'imposait de toute évidence, dans laquelle une carrière Lafarge, on n'a peut-être plus Monsieur Lafarge aujourd'hui, dans laquelle une carrière Lafarge pouvait, sinon sur les déchets, disons de classe 3, mais au moins sur les déchets, enfin de classe 2, pardon, mais au moins sur les déchets dits de classe 3, qui sont des déchets inertes, aurait pu être le réceptacle, et alors là c'était vraiment invisible et parfait, de certaines catégories, notamment de terres faiblement polluées. Eh bien, ça peut pas se faire, parce que il faudrait modifier l'arrêté, il faudrait refaire une enquête publique, et du coup, ça fragilise le dispositif. Et d'ailleurs, Lafarge n'a pas envie de le faire, parce que sinon, on va l'accuser, chaque fois qu'il fait une carrière, de vouloir en faire ensuite un centre d'enfouissement. Mais, bon, dans tous ces cas-là, on s'aperçoit que finalement, on se heurte. Non seulement on n'a pas la complicité en termes de projet, en termes techniques, des services de l'État, mais en plus, on se heurte à des impossibilités liées à des réglementations qui sont faites pour un territoire moyen qui n'existe pas et qui sont incapables de permettre de répondre à, alors, ce que j'appelais de l'innovation tout à l'heure, que je vais plutôt qualifier, là, maintenant, de solution spécifique à un territoire. C'est-à-dire que je suis sur un territoire, j'ai un problème spécifique, j'ai une solution spécifique, mais j'ai une réglementation. Bon, et donc, du coup, la question de l'expérimentation, y compris d'une capacité à un territoire à émettre ou à déroger, alors sous contrôle, hein, je ne dis pas que ça va se faire dans le désordre total, à déroger à une réglementation, me paraît être quelque chose qui se pose énormément. Je rappelle que là, je suis en train de parler d'un territoire qui est très spécifique, mais quand on a eu l'exposé de Paris sur leur plan climat territorial, nous a expliqué je ne sais plus quelle règle stupide qui empêchait de faire je ne sais plus quoi sur les bâtiments, là, parce que c'est dans le code, machin. Et pour le système de transport, par exemple, j'ai appris, parce que ce sujet m'intéresse, que récemment, dans les tramways de Rouen, l'administration a décidé qu'on pouvait plus monter un vélo parce que c'est dangereux. Bon, donc quand vous voulez raisonner sur un système global de transport à l'échelle de votre agglomération, si vous dites « je voudrais monter les vélos dans le tramway », vous pouvez pas. Donc je crois qu'il y a un vrai sujet, alors je suis un peu loin de l'innovation industrielle, etc., mais en termes d'innovation d'un territoire pour aborder ses propres enjeux, il y a à mon avis un vrai sujet là-dedans.
Alors, merci Jean-Damien, parce que ça va faire une excellente transition pour la suite du débat que on va faire en début d'après-midi.
Il y a peut-être un droit de réponse.
Après, là, après, réponse.
Attends, parce que justement, ça va être la question du politique et du débat citoyen avec le retour d'expérience de notre voyage aquitain où a été posée la question du risque pour l'expérimentation et la question, pour le coup, qui peut être une innovation, de création de normes intermédiaires pour pallier ces difficultés d'ordre juridique. Donc voilà, je vous invite à réfléchir à ces sujets pendant la pause déjeuner.
Tu donnes pas le droit de réponse
Alors, un droit de réponse, mais en 3 secondes.
Alors, il y a au moins 3 sujets, là. Non, hein, donc, réglementation. Oui, la réglementation est contraignante en France et on pourrait la rendre plus performante. Je pense qu'on on vit sur une réglementation qui a 200 ans. La loi sur les installations classées, elle a 200 ans. Alors, elle a tenu, mais elle est un peu vieille. Elle a été en avance dans un certain temps, elle est un peu vieille. Mais c'est pas l'administration qui fait les lois et les règlements en France. Hein. Donc, il y a des choses, avec l'ère Internet, etc., on peut accélérer les procédures et autres. Pardon ?
Les règlements.
Deuxième. Les règlements, ceci dit, il faut regarder les quelques problèmes qui ont été évoqués. Je donnerai deux exemples. Un exemple qui marquera un exemple qui sera plus lié à l'énergie. Alsace, 30 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 1997. 15 millions de tonnes en 2009, simplement sur un effet qui était sur une entreprise Rodia, sur laquelle on a réduit de quasiment 90% les émissions de N2O, protoxyde d'azote, pouvoir de gaz à effet de serre de 310 fois le CO2. Si on avait laissé l'entreprise qui a doublé de production depuis avec ses systèmes initiaux, on serait à 45 millions de tonnes. Donc un gain de 30 millions de tonnes, le facteur 3 hein, sur l'Alsace. Donc il y a de temps en temps des résultats. Deuxième point également, sur les dioxines. Alors, tous les incinérateurs aujourd'hui, même s'ils sont plus acceptés, c'est ça qui est étonnant, émettent 2000 à 3000 fois moins de dioxines qu'ils en émettaient il y a encore 15 ans. Hein. Et sachez que malgré ça, alors là, il y a des...
Ça, tu nous amènes sur le troisième débat.
Il y a des femmes parmi nous. La concentration en dioxine dans le lait maternel aujourd'hui est 10 fois supérieure aux normes de retrait, hein, donc de non-mise à la consommation du lait de vache. C'est bon. Donc, on peut mettre ça en parallèle sur la réglementation. Sur le reste, je suis persuadé sur le rôle de l'État et de la région qu'il y a... C'est le principe de subsidiarité. Il y a des choses où je ne comprends pas pourquoi l'État est toujours, en matière d'innovation, en particulier tout ce qui est innovation incrémentale, sur lequel il y a des pôles de compétitivité qui fonctionnent bien, et sur lequel il n'y a peut-être plus besoin que l'État soit là. Sauf peut-être sur un point, sur la labellisation, alors on n'intervient plus financièrement. Il faut peut-être aussi empêcher qu'il y ait 50 pôles de compétitivité en France qui fonctionnent sur le même sujet. Hein, bon. Avec toutes les réserves que j'ai données tout à l'heure sur... Il y a des créneaux qui sont spécifiques, il ne faut pas empêcher ces créneaux de se développer s'il y a des compétences tout à fait spécifiques. Il ne faut pas qu'il y ait 50 pôles de compétitivité sur les bâtiments basse consommation de façon générale. Bon. A contrario, il y a des projets de haute technologie, avec l'innovation de rupture, technologie de rupture, sur lesquelles on n'aura pas les moyens de s'en payer 2 ou 3, et c'est à l'État d'intervenir. Voilà.
Au déjeuner, hein.